Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, nous arrivons petit à petit à la fin de la Secunda Secundae, la deuxième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et nous en sommes dans le traité des états de perfection à la question 182, dans laquelle saint Thomas d'Aquin va comparer la vie active avec la vie contemplative. Donc il nous reste ces questions 182 à 189 pour terminer ce traité. Saint Thomas a expliqué, expliquera encore davantage l'importance de la vie contemplative. De même, si vous voulez, on peut expliquer comme ça, de même que notre nature humaine est faite de deux composants, le corps et l'âme, mais de même, il y a une alliance, de même qu'il faut, si vous voulez, une alliance entre ce corps et cette âme. S'il n'y a pas d'alliance entre le corps et l'âme, s'il y a une séparation entre le corps et l'âme, la personne est morte, on a un cadavre devant nous. Mais de la même façon, il y a une vie qui correspond au corps et une vie qui correspond à l'âme. La vie qui correspond au corps, c'est la vie active, et la vie qui correspond à l'âme est la vie contemplative. L'âme ne peut pas fonctionner toute seule, le corps ne peut pas fonctionner toute seule, il faut l'alliance entre les deux choses. De la même façon, il faut une alliance entre la vie contemplative et la vie active. La vie contemplative exclusive si vous voulez, sort d'une alliance avec la vie active, n'est pas forcément une bonne chose. De même que la vie active sans la vie contemplative, sans une alliance avec la vie contemplative, n'est pas bonne non plus, on tombe à ce moment-là dans l'activisme en général. Mais la vie contemplative seule est aussi très dangereuse. Il faut un équilibre. On voit très bien cela dans les ordres religieux les plus stricts, même ceux les plus contemplatifs. Je pense par exemple à l'ordre des Chartreux, qui est certainement l'ordre le plus pénitentiel qui existe dans l'Église catholique, un ordre d'ermites. Eh bien, ils sont obligés, les ermites de l'ordre des Chartreux, fondés par fondés donc au XIe siècle, Saint Bruno, XIe siècle, fin Xe, début XIe siècle, est un ordre justement qui doit être équilibré par la vie active. Et tous les moines de l'ordre de Saint Bruno sont tenus de faire un peu de vie, un peu d'activité physique manuelle tous les jours. En général, ils s'occupent d'un petit jardin derrière leur petit oratoire, où ils coupent du bois pour l'hiver, ils font quelque chose. Et Saint Thomas va expliquer que l'idéal, c'est une union entre la vie active et la vie contemplative. Plus exactement, contempler d'abord pour se remplir du bon Dieu, et une fois qu'on s'est rempli du bon Dieu, donner aux autres le fruit de sa contemplation. C'est la devise de saint Dominique. N'oublions pas que saint Thomas d'Aquin était membre de l'ordre dominicain. La devise de saint Dominique est très belle. Contemplare, contemplata, leis tradere. Contempler, puis donner aux autres le fruit de sa contemplation. Eh bien, on va voir avec saint Thomas que ce don du fruit de la contemplation, on se met d'abord devant le Saint-Sacrement pour se remplir du bon Dieu, puis une fois qu'on est plein du bon Dieu, à ce moment-là, on peut aller se lancer dans l'apostolat. On va voir que cette façon de procéder convient non seulement aux religieux, mais aussi aux gens dans le monde. Un père de famille doit avoir une vie contemplative. Il ne peut pas y passer des heures et des heures tous les jours, c'est évident, mais il devrait pouvoir y passer un minimum un quart d'heure, 20 minutes, voire même une demi-heure de contemplation, d'oraison tous les jours. On peut prendre un exemple pratique, très terre à terre, mais qui aide à comprendre. Si une voiture veut faire un long kilométrage, Vous avez un long voyage à faire, eh bien, qu'est-ce que vous faites avant de partir, avant de vous lancer sur la route ou l'autoroute pour faire ce long voyage que vous devez faire? Eh bien, vous arrêtez à la station-service pour remplir votre réservoir. Et imaginez une voiture qui va faire un long voyage qui ne se prend pas le temps de s'arrêter à la station-service pour remplir le réservoir de carburant sous prétexte qu'on n'a pas le temps, qu'il faut avancer, avancer, avancer. Eh bien, la voiture va s'arrêter faute de carburant. C'est la même chose dans la vie, dans la vie spirituelle. Alors voyons donc la question 182, c'est une question avec 4 articles. Et l'article 1 est certainement un des plus importants de ce traité sur les états de vie. Alors, article 1, saint Thomas se pose la question suivante. Quelle est la plus importante ou la plus digne de la vie active ou de la vie contemplative? Alors, il va donner comme exemple un exemple qu'il a déjà donné plusieurs fois, mais il revient toujours sur les mêmes choses. Je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'enseignement sans répétition. La répétition est vraiment la colonne vertébrale d'un enseignement qui dure. Il va prendre comme exemple le rapport qui existait entre Sainte Marie-Madeleine et sa sœur Sainte Marthe. Donc Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine reçoivent notre Seigneur Jésus-Christ, et Sainte Marie-Madeleine, et vous le savez, connaissez ce passage, et au pied de notre Seigneur et boit toutes ses paroles, pendant que Sainte Marie-Madeleine est au pied de notre Seigneur Jésus-Christ et boit toutes ses paroles, alors que Sainte Marthe est au service, fait le service à table. Alors Sainte Marthe va se plaindre à notre Seigneur en disant: vous ne pouvez pas demander à ma sœur de venir m'aider? Et réponse de notre Seigneur un peu surprenante, il dit: Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Et Saint Thomas explique que c'est Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, figure la vie contemplative. Donc, cette vie, puisqu'elle ne lui sera pas enlevée, quelle est la meilleure part? Cette vie l'emporte en dignité sur la vie active. Donc, absolument parlant, attention, bien noter ce terme, absolument parlant, la vie contemplative est supérieure à la vie active. Mais Saint Thomas d'Aquin va donner, en fait, 9 raisons de la supériorité de la vie contemplative sur la vie active. Alors attention, supériorité ne veut pas dire que la vie active n'a pas d'importance. On peut comparer avec le mariage. Le but premier du mariage, c'est la procréation et l'éducation des enfants. Mais il y a aussi des buts secondaires, on appelle les fins secondaires du mariage. Il y en a 2. Il y a l'amour mutuel entre les 2 époux, et il y a également le remède à la concupiscence. Ces fins secondaires sont sous la fin principale, sont donc au service de la fin principale. Donc l'amour mutuel entre les 2 époux, le remède à la concupiscence qui est donné par le sacrement de mariage, eh bien va servir à remplir la fin première du mariage, la procréation et l'éducation des enfants. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que les 2 fins secondaires sont sans importance. Elles sont importantes, mais elles sont moins importantes que la fin principale. C'est la même chose ici, dans le problème qui nous occupe, entre la comparaison entre la vie active et la vie contemplative. La vie contemplative, dit saint Thomas, est supérieure à la vie active. Cela ne veut pas dire que la vie active n'a aucune importance. Alors voilà ce qu'il dit, donne cette raison. En suivant d'ailleurs en cela Aristote. Ça laisse un peu rêveur. Aristote était un païen qui vivait 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ, Aristote avait été capable d'arriver à des conclusions de ce genre qui ont été prises par saint Thomas d'Aquin. Première raison de la supériorité de la vie contemplative sur la vie active. Voilà ce qu'il dit. La vie contemplative convient à l'homme selon ce qu'il a de meilleur en lui, qui est l'intelligence, et à l'égard de l'objet propre de l'intelligence, ce sont les intelligibles. Donc, l'homme est grand par son intelligence. La différence entre un arbre et un chat, c'est l'existence dans le chat, par exemple, d'une âme sensitive, alors qu'il n'y a qu'une âme végétative dans l'arbre, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le chat a une âme sensitive et une âme végétative, bien entendu, mais chez l'homme, il y a en plus de l'âme végétative et de l'âme sensitive, une âme intellectuelle. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a créé que 2 espèces d'êtres qui ont une vie intellectuelle, et donc ayant une vie intellectuelle, puisque l'intelligence a pour fin première la découverte du vrai, eh bien cette vie intellectuelle entraîne une recherche de la vérité, une recherche du vrai. Et donc, ce qui est de meilleur en l'homme, c'est l'existence en lui de l'intelligence. Et on voit tout de suite comment la révolution travaille contre cette règle élémentaire en faisant croire que le plus important, c'est le corps. La révolution essaie de nous faire croire que l'homme n'est qu'un simple corps, qu'intelligence n'a aucune importance. Non, l'intelligence va dominer le corps parce que l'intelligence est la forme, l'âme en quelque sorte est la forme du corps. Encore une fois, un corps sans intelligence, un corps sans âme est un cadavre. Alors attention que cette intelligence dont parle ici saint Thomas n'est trouvable que chez les êtres raisonnables. Il faut faire attention, même en français, dans la langue française, on a tendance à utiliser le mot intelligence dans des domaines dans lesquels il ne faut pas l'utiliser. On parle par exemple de l'intelligence d'un dauphin, l'intelligence d'un chimpanzé. C'est faux. Le dauphin et le chimpanzé n'ont pas d'âme intellectuelle, d'âme raisonnable. Ils ont une âme végétative, ils ont une âme sensitive, plus développée peut-être que les autres, mais ils n'ont pas d'âme intelligible. Donc ils n'ont pas d'intelligence, sont incapables d'utiliser une intelligence puisqu'ils n'en ont pas. Donc il ne faut pas dire que le dauphin ou le chimpanzé sont des animaux intelligents, il faut dire que ce sont des animaux qui ont des réflexes, qui ont des instincts plus développés que les autres animaux peut-être, mais en aucun cas ils n'ont d'intelligence. Donc il ne faut pas parler de l'intelligence d'un chien ou l'intelligence d'un animal. Seul l'homme et l'ange ont une intelligence. C'est évident que le niveau intellectuel de l'ange est largement au-dessus du niveau intellectuel de l'homme, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, parce que l'homme comprend les choses par l'intermédiaire de son corps. Les cinq sens corporels vont renseigner l'âme, l'intelligence plus exactement de ce qui se passe à l'extérieur, alors que l'ange, au contraire, qui est un pur esprit, n'a pas besoin de passer par les cinq sens pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'il n'a pas de corps, n'ayant pas de corps, il n'a pas de sens. Il comprend les choses par intuition. Donc, Rachel, donc saint Thomas d'Aquin va comparer sainte Marie-Madeleine à Rachel et sainte Martha à Lia. Donc, on voit très bien cette partie de l'Ancien Testament qui est bien connue. Comment, justement, la vie contemplative travaille sur la vie active en union avec la vie active. Deuxième raison pour laquelle la vie contemplative est supérieure à la vie active, dit saint Thomas, parce qu'elle peut durer plus longtemps, quoique non pas dans son degré suprême. Donc, encore une fois, sainte Marie-Madeleine est figure de la vie contemplative parce qu'elle est assise sans bouger au pied du Seigneur. Le temps semble s'arrêter pour elle. Troisième raison, il y a plus de délectation dans la vie contemplative que dans la vie active. Il est évident que cette délectation dont parle saint Thomas est une délectation intellectuelle. L'âme, qui est faite pour découvrir le vrai, va se délecter dans la contemplation de la vérité. Une chose que le monde moderne est incapable de faire. Il ne s'en préoccupe même pas. C'est pour cela que le texte dit que pendant que Marthe s'agitait, la vie active, Marie festoyait, c'est-à-dire est au pied de notre Seigneur, buvant toutes les paroles de notre Seigneur. Quatrième raison, dans la vie contemplative, l'homme se suffit davantage à lui-même, ayant besoin de moins de choses pour s'y livrer. D'où la parole de notre Seigneur, « Marthe, Marthe, vous vous inquiétez et vous tremblez pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas ôtée. » Cinquième raison, la vie contemplative est davantage aimée pour elle-même, tandis que la vie active est ordonnée à autre chose. Donc saint Thomas va citer le psaume 27 de David. « J'ai demandé au Seigneur une seule chose, et c'est celle que j'entends poursuivre, qui est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie pour voir les délices du Seigneur. » On peut traduire ces points que je viens d'expliquer par une phrase toute simple. « La seule personne qui vous décevra jamais, c'est Dieu. » On sera toujours déçu par une créature, quelle qu'elle soit. La seule personne qui nous décevra jamais est Dieu, parce que Dieu, justement, étant parfait, ne décevra jamais ses créatures. Et donc ceux qui cherchent leur plaisir, si vous voulez, qui cherchent à s'arrêter totalement à des choses purement matérielles ou à des choses naturelles, seront toujours déçus un jour ou l'autre. Vous serez toujours déçus par votre époux d'un certain côté. Vous serez toujours déçus par votre épouse ou vos enfants d'un certain côté. Vous serez toujours déçus par votre prêtre, même si vous l'aimez beaucoup, qu'il a beaucoup de qualités d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ? Parce que ces êtres sont des êtres finis. Ce sont des êtres créés. Dieu étant incréé, peut seul remplir complètement une âme. Sixième raison de la supériorité de la vie contemplative sur la vie active, la vie contemplative se présente comme un loisir et un repos. Pourquoi? Parce que l'âme peut se délecter dans le loisir de contempler notre Seigneur Jésus-Christ. La vie active, si vous voulez, c'est une course constante après quelque chose qu'on n'obtient jamais. On court toujours après la richesse, mais quand on croit la connaître, quand on croit la comprendre, quand on croit la posséder, on se rend compte tout de suite que le voisin en a plus. Et donc on cherche encore quelque chose de plus, de supplémentaire qu'on n'a pas encore. C'est pour ça que les gens qui sont très riches sont malheureux, parce que ils sont très riches, mais ils n'en ont jamais assez. Ils ont toujours quelqu'un qui a plus d'argent qu'eux. Ils ont toujours quelqu'un qui a plus de facilité matérielle qu'eux, et donc ils veulent imiter et dépasser les gens qui sont autour d'eux. Comme cette dame que je connaissais, qui avait un très beau canapé dans sa maison, qui est en parfait état. Et puis, un jour, elle décide de le changer. On lui demande pourquoi, mais pourquoi? Puisqu'il est encore en bon état, pourquoi changez-vous? Ah, vous comprenez, ma voisine vient d'acheter le même. Donc, il n'est pas question que je garde ce canapé alors que ma voisine a le même. Je veux quelque chose de meilleur. Ce qu'elle avait été déjà bon, mais ça faillant, on veut quelque chose de meilleur. Septième raison, la supériorité de la vie contemplative, dit saint Thomas, la vie contemplative concerne le divin, la vie active concerne l'humain. Voilà l'explication de saint Thomas. Au commencement était le Verbe, ici de saint Augustin. Voilà ce que Marie écoutait. Elle écoutait le Verbe qui s'est fait chair. Le Verbe s'est fait chair, et voilà ce que Marthe servait. Donc sainte Marthe servait la chair, le corps, et sainte Marie-Madeleine servait le Verbe. Évidemment, ce sont des comparaisons que donne saint Thomas. Huitième raison. La vie contemplative appartient à ce qu'il y a de proprement humain dans l'homme, c'est-à-dire l'intelligence. Tandis que les facultés inférieures, communes à l'homme et à la bête, ont part aux opérations de la vie active. Le corps est commun aux animaux, à tous les animaux. Tous les animaux ont un corps. Mais l'âme, c'est-à-dire la forme du corps, n'est la propriété que des hommes ou des anges. Sauf que pour les anges, encore une fois, il n'y a pas de corps. Donc les animaux sans âme ont un corps, mais qui n'est pas doublé d'une partie intellectuelle, une partie raisonnable, qui est l'âme. Donc les facultés inférieures sont au corps, ce que les facultés supérieures sont à l'âme. Donc la vie active est au corps, ce que la vie contemplative est à l'âme. Neuvième raison. Une autre raison est ajoutée par le Seigneur s'appuyant sur saint Luc. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas ôtée. Et encore une fois, saint Augustin nous donne la réponse, citée par saint Thomas d'Aquin. Vous n'avez pas choisi une mauvaise vie, mais elle a choisi une meilleure vie, une meilleure part, et donc elle ne lui sera pas ôtée. Un jour, on vous retirera les nécessités de la vie, la douceur de la vérité est éternelle. Donc la vie corporelle, aura sa fin, la vie intellectuelle, la vie raisonnable, si vous voulez, est éternelle dans le sens que la vérité est éternelle. Et d'un point de vue particulier, dans un cas donné, à cause des nécessités de la vie présente, il arrive que la vie active doit être parfois choisie de préférence. Vous voyez, saint Thomas, on voit bien, est plein de réalisme. La philosophie de saint Thomas, c'est la philosophie pérenne, mais c'est la philosophie réaliste. On n'est pas dans le subjectivisme des modernes. Donc saint Thomas a les deux pieds sur la terre. Et il cite Aristote. Il vaut mieux philosopher que de gagner de l'argent. Il vaut mieux utiliser son âme que d'utiliser son corps. Mais pour celui qui est dans le besoin, gagner de l'argent est préférable. Donc, saint Thomas n'a pas de mépris pour la vie active. Il dit que la vie contemplative est supérieure à la vie active, mais il ne méprise pas la vie active pour autant. Et dans certains cas, il faut savoir mettre de côté la vie contemplative pour s'occuper de sa vie active. J'ai connu, malheureusement, des parents, des pères de famille, des mères de famille, qui sous prétexte d'avoir une vie contemplative très forte, délaisser complètement leur devoir d'état avec leurs enfants ou les choses matérielles. Alors la maison tombait en ruine, les choses matérielles de la maison tombaient en ruine parce que monsieur passait une grande partie de ses soirées à prier, s'occupait pas de sa maison. J'ai connu une mère de famille, je ne citerai pas le nom bien entendu, j'ai connu une mère de famille qui a complètement détruit sa famille comme cela, parce que elle passait des heures à prier, mais elle s'occupait pas des enfants, et c'était la foire d'empoigne à la maison, les enfants faisaient n'importe quoi parce que la maman ne s'occupait pas de son devoir d'état. Et dans une réponse aux objections, c'est la réponse à la deuxième objection, une phrase magnifique. Là, il cite Boèce. C'est toujours la citation de Boèce, mais par saint Thomas d'Aquin. Les âmes humaines deviennent nécessairement plus libres quand elles s'établissent dans la contemplation de l'intelligence divine et moins libres quand elles s'affaissent vers les corps. C'est-à-dire, plus la vie corporelle, la vie active est importante chez nous, moins la liberté existe pour nous. Et au contraire, plus la vie contemplative est importante pour notre âme, en nous, dans notre vie de tous les jours, plus nous sommes libres. La véritable liberté, c'est contempler Dieu. Encore une fois, la liberté, ce n'est pas du tout le choix, le droit de faire ce qu'on veut. La liberté, c'est simplement le choix d'un moyen pour atteindre la fin pour laquelle on a été créé. Pourquoi est-ce que le bon Dieu nous a donné une nature humaine? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a voulu que cette nature humaine soit une alliance entre un corps et une âme? Bien, le bon Dieu a voulu une nature humaine, une union entre un corps et une âme, pour que nous puissions atteindre la fin pour laquelle il nous a créés, à savoir lui-même. L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver son âme. Et quelles sont les deux choses que nous devons utiliser pour louer, honorer, servir Dieu et sauver notre âme? Bien, notre âme, bien sûr, mais aussi notre corps. Puisque le corps est sous la puissance de l'âme, et l'âme doit travailler pour aider le corps à porter l'âme en quelque sorte. On peut dire que l'homme, le corps, c'est l'âne qui porte le voyageur. Le voyageur, c'est l'âme qui contrôle l'âne. Et l'âne, et c'est le corps. Le corps est à l'âne ce que le voyageur, si vous voulez, est à l'âme. Donc, c'est le voyageur qui est juché sur l'âme qui va contrôler les mouvements de l'âne. Mais en même temps, le voyageur, s'il n'a pas d'âne pour marcher, pour avancer, eh bien, il ne peut plus rien faire. Plus personne ne peut porter ses bagages, il est obligé de s'arrêter, d'attendre. Vous voyez? Donc l'âme, c'est le corps, le voyageur, c'est l'âme, l'âme contrôle le corps, mais l'âme a besoin du corps. Donc je répète cette phrase très belle que cite saint Thomas d'Aquin, les âmes humaines deviennent plus libres quand elles s'établissent dans la contemplation de l'intelligence, et moins libres quand elles s'affacent vers le corps. Donc plus on contemple l'intelligence divine, les choses divines, plus on trouve la liberté. C'est pour ça que les hommes modernes qui ne se contentent que des choses corporelles, des choses naturelles, et maintenant de plus en plus des choses contre nature, eh bien perdent totalement leur liberté. L'homme moderne est à devenir un esclave. Pourquoi? Parce qu'il est incapable de lever son regard vers le ciel et de contempler l'intelligence divine. Et donc il se rattrape sur les choses purement matérielles, purement naturelles, purement corporelles, et il oublie complètement qu'il a une âme qui est faite pour louer, honorer et servir Dieu. Donc la vie active ne commande pas directement la vie contemplative, mais en y disposant, elle prescrit certaines œuvres de la vie active, et en cela, elle sert la vie contemplative plus qu'elle ne lui commande. C'est-à-dire, la vie active est au service de la vie contemplative. Et là, saint Thomas cite saint Grégoire le Grand, une phrase magnifique: la vie active est nommée un service, la vie contemplative une liberté. Vous voulez être libre? Mettez-vous à genoux devant le bon Dieu. Prenez votre temps d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ et vous trouverez la véritable liberté. Alors, saint Thomas va se poser la question, c'est la troisième objection. Il dit qu'il y a des personnes qu'on arrache à la vie contemplative pour les jeter dans la vie active. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, on voit certains moines qui sont enlevés de leur couvent pour être nommés évêques, et même dans certains cas pape. Saint Pie V était un moine dominicain, qui a été retiré de son couvent et mené une vie contemplative pour se retrouver pape. Alors voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin en citant encore une fois saint Augustin. Il dit: l'amour de la vérité inspire au saint loisir. Les nécessités de la charité imposent le juste travail, c'est-à-dire celui de la vie active. Et voilà ce qu'il dit: si nul ne nous met sur les épaules ce fardeau de la vie active, il n'y a qu'à vaquer à la recherche et à la contemplation de la vérité. Mais si on nous l'impose, la charité exige que nous le portions. Mais même dans ce cas, nous ne devons pas délaisser entièrement la délectation de la vérité si nous ne voulons pas être privés de cette suavité et écrasés par cette nécessité. Cela montre, dit saint Thomas, que lorsqu'on est arraché à la vie contemplative pour être appliqué à la vie active, il ne s'agit pas d'abandonner la contemplation, mais d'y joindre l'action. Encore une fois, la vie active est au service de la vie contemplative. Et on peut donner comme règle générale, c'est tout à fait, je pense, l'esprit de saint Thomas, plus on est obligé d'être plongé dans l'action, plus on doit avoir la contrepartie, le contrepoids d'une vie contemplative. Malheur à celui qui est obligé d'avoir une vie active et qui ne peut pas avoir de vie contemplative. Vous voyez, c'est le saint curé d'Ars qui rencontrait un confrère voisin, un village à côté d'Ars, et ce confrère se plaignait au saint curé d'Ars de ne pas avoir le temps de tout faire. Il dit, voilà, j'arrive pas à tout faire, j'ai trop de travail, trop d'occupations. Alors le saint curé d'Ars demande à son confrère, mais combien de temps par jour passez-vous en méditation devant le Saint-Sacrement? Combien de temps d'oraison avez-vous chaque jour? Et le prêtre de répondre au saint curé d'Ars, je passe une heure par jour en contemplation. Et le saint curé d'Ars de répondre, écoutez la réponse, passez-en deux et vous aurez le temps de tout faire. C'est bien de ce que ça veut dire. Donc il faut pas abandonner la contemplation sous prétexte de l'action, sinon on tombe dans l'activisme, on tombe dans le volontarisme, mais il faut que l'action soit au service de la contemplation. Donc plus on est obligé d'avoir une vie active, ce qui est le cas pour beaucoup d'hommes, entre autres, qui sont obligés, à cause de leur activité professionnelle, d'avoir une vie extrêmement active, eh bien il faut, pour ne pas être dévoré par l'action, il faut avoir la contrepartie, le contrepoids, encore une fois, d'une vie contemplative. Au moins un bout de contemplation tous les jours. C'est pour ça que les gens très actifs ont impérativement besoin de, je dirais, d'une demi-heure de méditation par jour. D'une chose qui m'avait frappé dans la vie, il n'est pas un saint, mais c'est quand même un grand homme, plan politique, de Poutine, le président de la Confédération de Russie. Et j'avais appris que, bien qu'il était extrêmement occupé par toutes ses actions politiques, son gouvernement, tout un état, un des plus grands du monde, eh bien il prenait régulièrement le temps d'aller dans un monastère orthodoxe. Il est orthodoxe, il lui manque la vraie religion, c'est vrai. Il allait dans un monastère orthodoxe régulièrement pour se ressourcer, faire une petite retraite de quelques heures ou de quelques jours dans un monastère orthodoxe pour justement garder le contact avec le vrai. Même si, encore une fois, malheureusement, la Russie est dans les miasmes d'une fausse religion, la religion orthodoxe. Mais attention, la religion orthodoxe est quand même une religion qui adore le vrai Dieu, dans le sens que si vous rentrez dans une église orthodoxe, les orthodoxes ayant conservé le sacrement de l'ordre valide, il y a présence réelle dans les églises orthodoxes, attention, les confessions orthodoxes sont valides, hein, la sainte messe orthodoxe est valide, il y a présence réelle. Le seul sacrement qui est invalide chez les orthodoxes, c'est le mariage. Parce que les orthodoxes acceptant le divorce, évidemment, il n'y a pas la condition sine qua non pour la validité d'un mariage, à savoir l'indissolubilité. Ils n'acceptent pas l'indissolubilité du mariage, donc leurs mariages sont invalides. Voilà donc, résumé rapidement, cet article qui est, je crois, un des plus beaux du traité de saint Thomas d'Aquin sur les états de vie. Je rappelle, question 182, article 1 de la Seconda Secundae. Avançons maintenant dans les choses plus faciles. L'article 2, quelle est de la vie active ou de la vie contemplative, quelle est celle qui est la plus méritoire? Donc saint Thomas explique que la vie active, c'est le travail. La vie active, contemplative, c'est le repos. Le repos dans la contemplation du vrai. Quiconque se convertit au Seigneur doit premièrement se fatiguer au travail, dire accueillir l'IA, pour se reposer ensuite par mes embrassements de Rachel dans la contemplation du principe. Il va résumer, si vous voulez, tout l'article par une citation de saint Grégoire le Grand. Voilà ce que dit saint Thomas. « Grands sont les mérites de la vie active, mais plus grands encore sont ceux de la vie contemplative. » Pourquoi ? Parce que, dit-il, la vie contemplative relève directement et immédiatement de l'amour de Dieu. Donc, par sa nature même, dit-il, la vie contemplative est plus méritoire que la vie active. La vie contemplative l'emporte en mérite sur la vie active, car celle-ci travaille aux œuvres de la vie présente. Mais au contraire, la vie contemplative, par un goût intime, savoure déjà le repos à venir dans la contemplation de Dieu. Cependant, dit-il, encore une fois, on voit le bon sens de saint Thomas d'Aquin, il peut arriver qu'une personne acquiert, dans les œuvres de la vie active, des mérites supérieurs à ceux de telle autre personne dans celle de la vie contemplative. Par exemple, quelqu'un qui, par obéissance, accepte de s'enlever à la contemplation pour servir le prochain, par ordre de son supérieur. Prenons un exemple tout simple. Imaginez une religieuse garde-malade. Et dans une communauté de garde-malades, s'occupe de personnes très âgées, de personnes très malades. Et puis, toutes les religieuses sont réunies à la chapelle pour une adoration du Saint-Sacrement. Donc le prêtre, l'aumônier, exposait le Saint-Sacrement et toutes les religieuses sont en adoration devant le Saint-Sacrement pour se remplir justement la contemplation divine. Et voilà que la cloche sonne, un malade appelle. Bien, la religieuse qui est de service de garde doit se lever, faire la génuflexion, abandonner le Saint-Sacrement et aller voir le malade. Elle ne pourrait pas dire « Ah, moi, je m'occupe du bon Dieu, c'est bien plus important que d'aller m'occuper du malade. » Non, parce que son devoir d'État, à l'heure présente, le malade appelle, c'est Dieu qui appelle, elle se lève, et alors qu'elle souhaiterait certainement rester tranquillement devant le Saint-Sacrement à remplir son âme du bon Dieu, elle va aller s'occuper du malade. Et en s'occupant du malade, qui est une chose active, en fait, elle plaît davantage au bon Dieu que si elle était restée à la chapelle contre l'obéissance en désobéissant au bon Dieu. Article 3, la question 182. La vie contemplative est-elle empêchée par la vie active? Alors, en soi, saint Thomas explique qu'il est impossible de s'adonner simultanément à l'activité extérieure et à la contemplation de Dieu. Donc, on peut envisager, dit-il, la vie active en tant qu'elle discipline les passions intérieures de l'âme, elle est soumise à l'ordre de la raison, et prise en ce sens, la vie active représente un secours pour la contemplation à laquelle fait obstacle le dérèglement des passions de l'âme. On a déjà expliqué que la vie active est au service de la vie contemplative. Et là, il cite Saint Grégoire, une citation splendide de Saint Grégoire. Écoutez bien, voilà ce que dit Saint Grégoire le Grand. « Ceux qui veulent occuper la citadelle de la contemplation doivent s'éprouver au préalable sur le champ de bataille de l'action. » Ils doivent s'assurer qu'ils ne causent plus aucun préjudice à leur prochain, qu'ils supportent patiemment celui que le prochain peut leur causer, que devant l'abondance des biens temporels, leur âme ne s'abandonne pas à une joie déréglée et que la perte de ces biens ne les afflige pas sans mesure. Ils doivent s'assurer aussi que, lorsqu'ils rentrent en eux-mêmes pour y méditer les vérités spirituelles, ils ne traînent pas avec eux les images des affaires corporelles ou, s'il en a traîné, qu'ils les discernent et les chassent. Donc, l'exercice de la vie active, conclut saint Thomas, est profitable à la vie contemplative à ce qu'il apaise les passions intérieures d'où proviennent les imaginations qui empêchent la contemplation. Donc, l'exercice de la vie active prépare à la vie contemplative. Donnez un exemple tout simple. Quand on joint le séminaire, je m'appelle à l'école, quand je suis rentré à l'école, mais la première chose qu'on faisait au séminaire, c'était tout simplement beaucoup de travail manuel. Bien sûr, on avait une partie de contemplation, on avait la demi-heure ou l'heure de méditation tous les jours, mais on avait beaucoup de travail manuel en première année. Pourquoi ? Parce que le travail manuel humilie le corps, humilie l'âme. Et l'humiliation ouvre la porte de l'âme à la contemplation de la vérité. Donc si on n'est pas capable de s'humilier par les travaux manuels, qui étaient assez pénibles, eh bien on n'était pas capable d'ouvrir notre âme au bénéfice de la contemplation. Article 4 de la question 182, l'ordre de priorité entre ces deux vies, la vie active et la vie contemplative. Donc, voilà ce qu'il dit. La vie active a une priorité de temps sur la vie contemplative, car c'est à partir des bonnes œuvres qu'on tend à la contemplation. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que puisque la vie active est au service de la vie contemplative, la vie active soutient la vie contemplative. On commence par une vie active, et ensuite on se lance dans la vie contemplative. Mais il y a un lien entre les deux. Pourquoi la vie contemplative a la priorité sur la vie active, les objets auxquels elle s'applique étant premiers et meilleurs. Donc la vie active a la priorité sur la vie contemplative à laquelle elle nous dispose. Ça, imaginez un séminariste qui voudrait passer sa vie à la chapelle sans sanctifier par le travail manuel qui lui est imposé. Eh bien, il ne resterait pas au séminaire. On ne garderait pas au séminaire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et même dans une vie religieuse, imaginez un novice, un postulant dans une vie religieuse, dans un monastère de vie religieuse, et qui voudrait passer son temps à la chapelle, et qui ne voudrait pas se sanctifier par la vie active, par les travaux manuels qui lui est imposé par ses supérieurs, et bien il se donnerait. Tout simplement, malgré le fait qu'il ait joint à la vie religieuse, il se donnerait parce qu'il ne sait pas ce que c'est que l'obéissance. Pas d'obéissance, pas de contemplation. Mais, dit saint Thomas, on va de la vie active à la vie contemplative pour ce qui regarde l'ordre de génération. Mais on revient de la vie contemplative à la vie active dans l'ordre de direction, vu de se mettre la vie active à la direction de la vie contemplative. La vie contemplative est relative à l'âme, comme la vie active est relative au corps. Donc l'âme contrôle le corps, la vie contemplative contrôle la vie active qui est au service de cette vie contemplative. Donc ceux, dit saint Thomas, qui sont plus aptes à la vie active peuvent, en exerçant cette vie active, se disposer à la vie contemplative. Et d'autre part, ceux qui sont plus aptes à la vie contemplative peuvent néanmoins aborder les exercices de la vie active pour y trouver un surcroît de préparation à la vie contemplative. Donc on voit très bien ici que saint Thomas montre qu'il faut une alliance entre les deux choses. La vie contemplative seule, je dirais, est dangereuse. Dangereuse. Il faut les deux. Pour cela que l'Église a toujours regardé avec une certaine méfiance les ermites qui vivaient tout seuls, sans aucun contrôle, sans aucune vie de communauté, aucun contrôle par un supérieur. Et elle ne l'autorisait qu'à des gens qui avaient déjà un certain âge et une grande expérience dans la vie spirituelle, dans la vie intellectuelle, dans la vie de contemplation, une grande expérience, une grande partie de leur vie passée dans l'obéissance, et à ce moment-là, ils étaient capables de se lancer dans la vie érémitique sans tomber dans les pièges du démon. Passons maintenant à la question 183 de la Seconda Secundae, les offices et les états en général parmi les hommes. Donc, je rappelle que le nom du traité que nous étudions, c'est les états de vie. Donc, saint Thomas va se poser la question, question 183, la Seconda Secundae, article 1, qu'est-ce qui constitue un état de vie parmi les hommes? Donc, il rappelle d'abord le principe. L'homme acquiert la rectitude spirituelle, la droiture spirituelle, en soumettant à Dieu sa volonté. La vie religieuse, la vie consacrée à Dieu, c'est d'abord une vie de soumission à la volonté divine. Demain, on va expliquer que les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, le plus important, c'est l'obéissance. Alors là, je passe un peu plus vite sur ces articles qui sont très simples et qui sont un peu moins importants. Je m'arrête surtout sur les passages importants. Cela ne vous empêche pas, mes bien chers frères qui m'écoutez, si vous avez la somme ou accès à la somme, vous pouvez la voir sur Internet. On peut avoir facilement les PDF de la somme. Rien ne vous empêche, après, vous lancez vous-même sur l'étude du texte même complet de saint Thomas. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Article 2, doit-il y avoir parmi les hommes diversité d'états et d'offices? Donc saint Thomas va expliquer que les hommes sont tous différents les uns des autres. Il n'y a pas deux âmes identiques. Donc la diversité des états et des offices dans l'Église est requise pour trois fins. D'abord, dit-il, premièrement, pour la perfection de l'Église elle-même. Dans l'ordre naturel, nous voyons la perfection qui en Dieu est simple et unique, ne pouvoir se réaliser chez les créatures que sous des formes diverses et multiples. À un autre endroit de la somme, il explique que si toutes les fleurs d'une prairie étaient de la même couleur, la prairie ne serait pas très belle. Si au contraire il y a des fleurs de toutes les couleurs, la multiplicité des couleurs va augmenter la beauté de la prairie. Donc, pour la perfection de l'Église elle-même, dans l'ordre naturel, dit-il, nous voyons la perfection qui en Dieu est simple et unique, ne pouvoir se réaliser chez les créatures que sous des formes diverses et multiples. Il en va de même pour la plénitude de la grâce, qui se trouve concentrée chez le Christ comme dans la tête, mais elle se répand dans ses membres sous des formes diverses parce que pour que le corps de l'Église soit parfait. Donc il faut qu'il y ait diversité d'état et d'office dans l'Église. Tous les hommes ne sont pas au même niveau. Ça, c'est très important de comprendre que le bon Dieu n'a jamais enseigné l'égalité. Il n'y a pas d'égalité entre les hommes, il n'y a pas d'égalité entre les âmes, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et Dieu. Dieu est au-dessus, l'homme est en dessous. L'homme obéit parce qu'il est serviteur, Dieu commande parce qu'il est le supérieur. L'homme a des devoirs, Dieu a des droits. N'oublions pas que la première chose que fait la révolution pour détruire une société, c'est justement faire croire aux gens qu'il y a égalité entre tous les membres de la société. À ce moment, plus personne n'obéit. Si l'obéissance saute, c'est la société elle-même qui saute, parce qu'il ne peut pas y avoir de société sans obéissance. Donc, cette diversité des états et des offices dans l'Église est aussi requise, dit saint Thomas, pour l'accomplissement des actions nécessaires à l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a de tout. Il faut s'occuper des malades, il faut s'occuper des choses intellectuelles, il faut des professeurs dans les universités catholiques, il faut des moines qui prient devant le bon Dieu à longueur de journée, il faut des gardes malades, il faut un peu de tout. Et donc, toutes ces choses sont des moyens différents requis pour célébrer, pour adorer le bon Dieu. Donc cette diversité intéresse la dignité, la beauté de l'Église qui consiste en un certain ordre. Donc cette diversité des états et des offices, on parle de saint Thomas, n'empêche pas l'unité de l'Église. Cette unité, en effet, réside de l'unité de foi, de charité, de service mutuel. Donc n'oublions pas que l'Église catholique est une. Mais l'unité de l'Église catholique, c'est l'unité de foi, unité du sacrement, unité des sacrements, unité de la charité dans l'Église. Encore une fois, il n'y a pas d'égalité entre les membres de l'Église. Donc, dans la cité terrestre, la paix disparaît dès que les citoyens recherchent leur intérêt particulier. Si chacun tire la couverture à soi, la société s'écroule. Donc, plus loin, dans l'article 3, il s'occupe de la diversité des offices. Voilà ce que dit saint Thomas. La diversité parmi les membres de l'Église a trois buts. La perfection, l'action et la beauté. En fonction, dit-il, de cette triple fin, on peut donc reconnaître parmi les fidèles une triple diversité. La première est relative à la perfection. Donc, trois buts. Perfection, action, beauté. Premièrement, la perfection. Donc, l'Église à trois buts. Premier but, la perfection, c'est celle des états qui fait que certains sont plus parfaits que d'autres. Bon. La deuxième est relative à l'action, c'est celle des offices. On considère en effet comme exerçant des offices différents ceux qui sont proposés à des actions différentes. La sanctification d'une religieuse garde-malade n'est pas la même que la sanctification d'une religieuse contemplative. Et la troisième diversité, troisième but, si vous voulez, de cette diversité dans les membres de l'Église, intéresse la beauté de l'Église, c'est celle des grades, selon laquelle, dans le même état, dans le même office, se rencontrent des supérieurs et des inférieurs. Le bon Dieu a voulu que dans l'Église catholique, il y ait des supérieurs et des inférieurs. Donc des gens qui commandent et des gens qui obéissent. Et les gens qui commandent ne peuvent pas faire n'importe quoi, parce qu'eux-mêmes sont liés par les constitutions de l'ordre auquel ils appartiennent, et sont liés par la loi divine qu'il a même pour tout le monde. Donc nous sommes tous égaux devant Dieu dans le sens que nous serons tous jugés par Dieu. Nous avons tous une âme qui va être un jour séparée du corps dont elle est la forme et qui sera jugée par Dieu. De ce côté-là, on est tous égaux, mais chaque âme est différente, donc chaque âme a une fonction particulière. On voit très bien dans le mariage comment le monde moderne a-t-il détruit le mariage chrétien en faisant croire que l'homme et la femme étaient égaux, alors que l'homme et la femme sont différents. L'homme pense d'une certaine façon, l'homme va penser en principe d'abord avec sa cervelle, puis ensuite avec son cœur, alors que la femme doit penser en principe avec son cœur d'abord, puis avec sa cervelle. C'est comme ça que le bon Dieu a voulu que les choses soient équilibrées. Si vous mettez l'égalité entre l'homme et la femme, on a des hommes qui deviennent des femmelettes et des femmes qui se prennent pour des hommes. Et toute la vie familiale s'écroule. Que chacun soit à son travail. Article 4, saint Thomas va parler de la diversité des états. Les états de vie. Voilà ce qu'il dit. Dans l'ordre spirituel, dit-il, il existe une double liberté et une double servitude. Il y a une servitude du péché et une servitude de la justice. Pareillement, il y a liberté à l'égard du péché et une liberté à l'égard de la justice. Donc, on est obligé, on dit ça de façon un peu vulgaire, mais c'est très vrai, on dit l'homme ne peut pas vivre sans un Dieu. Ou il adore le vrai Dieu, il déteste les faux dieux. Ou il adore les faux dieux et il déteste le vrai Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans une idole. Ou il adore la véritable idole, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ou il adore un faux Dieu. Il y a servitude du péché ou de la justice. Toutes les fois qu'une personne se trouve portée au mal par l'habitus du péché ou inclinée au bien par l'habitus de l'injustice. Donc une personne qui est habituée à faire le bien a un habitus en lui, va le pousser vers le bien. Au contraire, quelqu'un qui est habitué par le vice, qui est habitué à suivre le péché, a un habitus du péché qui va pousser cette âme constamment vers le mal. Il y a liberté à l'endroit du péché lorsqu'une personne n'est pas dominée par l'incarnation au péché, et liberté à l'égard de la justice lorsque l'amour de la justice ne la retient plus de péché. Oui. Et donc l'homme est libre, malheureusement. On aimerait bien ne pas avoir cette liberté de péché, mais le bon Dieu a voulu que l'homme soit libre. Il a créé Adam et Ève libres. Il leur a expliqué ce qu'il fallait faire, mais il n'a pas obligé à suivre la volonté divine. Il s'ensuit donc. Alors, voyons ce que dit saint Thomas. Il y a toutefois cette différence que l'homme est incliné à la justice, dit-il, par la raison naturelle, tandis que le péché est contre la raison naturelle. Ça, il faut comprendre ça. Le péché est contre nature. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé et mis sur la terre avec une loi naturelle à suivre. Le péché va contre la loi naturelle. Et puisque le péché va contre la loi naturelle, le péché va contre la nature même de l'homme. Il s'ensuit donc, dit saint Thomas, que la liberté à l'égard du péché, à laquelle se trouve joint de la servitude à l'égard de la justice, est la vraie liberté. La vraie servitude, pareillement, c'est la servitude à l'égard du péché accompagnée de la liberté à l'égard de la justice qui entrave l'homme dans la poursuite de bien qui lui est propre. C'est-à-dire, celui qui est vraiment libre, c'est qui ? La conclusion de tout ce que dit ici saint Thomas, c'est très profond ce qu'il vient de dire. Celui qui est vraiment libre, c'est celui qui est capable de maîtriser les trois concupiscences. Celui qui est capable de dire non à la concupiscence des yeux, non à la concupiscence de l'orgueil, non à la concupiscence de la chair, trouve la véritable liberté. Donc, la personne la plus libre sur la terre, c'est qui ? C'est le moine dans son couvent, dans son monastère. Il suit sa vie religieuse, il est protégé par les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Pauvreté contre la concupiscence des yeux, chasteté contre la concupiscence de la chair, obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Il a donc la véritable liberté. Alors que le monde va dire, pauvre moine, il est complètement esclave, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller dans les boîtes de nuit locales, il est donc comme un esclave. En fait, c'est l'homme qui vit dans le monde qui est esclave de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de l'orgueil. Le moine, qui est fidèle à ses trois vœux, a la véritable liberté. Donc voilà ce que, je répète cette phrase de saint Thomas qui est un peu compliquée, mais qui est très belle. La liberté à l'égard du péché, à laquelle se trouve jointe la servitude à l'égard de la justice, c'est la vraie liberté. La vraie servitude, pareillement, c'est la servitude à l'égard du péché accompagnée de la liberté à l'égard de la justice qui entrave l'homme dans la poursuite du bien qui lui est propre. Si on suit une fausse liberté qui nous amène vers les trois concupiscences, on perd notre véritable liberté. À l'égard de celui, dit saint Paul, à qui vous vous êtes livré, comme pour lui obéir, vous êtes effectivement des esclaves. Que ce soit du péché pour la mort ou de l'obéissance pour la justice. Donc dans l'état de servitude, de liberté spirituelle, nous distinguerons les commençants, auxquels appartient l'état des débutants, le milieu, auxquels appartient l'état des progressants, et le terme, auxquels appartient l'état des parfaits. Ici, on voit apparaître une triple distinction très importante qu'on va voir dans toute la vie spirituelle, chez tous les auteurs spirituels, qui parlent des commençants, des progressants et des parfaits. Commençants, ceux qui débutent la vie spirituelle, et les parfaits, ceux qui ont déjà la possession de cette vie spirituelle. Donc, on est toujours esclave de quelqu'un. Ou on est esclave volontaire du bon Dieu, ou on est esclave obligatoire du démon. Alors, passons maintenant à la question 184, l'état de perfection générale. Il y a des choses faciles sur lesquelles je passe rapidement, des choses plus compliquées sur lesquelles j'essaierai de m'arrêter un peu plus pour être sûr que vous compreniez bien. Alors, article 1 de la question 184, la perfection de la vie chrétienne tient-elle à la charité ? Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Donc, il nous cite saint Paul, au Colossiens chapitre 3, par-dessus tout, ayez la charité qui est le lien de la perfection. Donc, on dit qu'un être est parfait dans la mesure où il atteint sa fin propre, qui est sa perfection ultime. Or, c'est la charité qui nous unit à Dieu, fin ultime de l'âme humaine. La perfection de la vie chrétienne tient donc spécialement à la charité. N'oublions pas que lorsqu'on baptise un enfant, eh bien, la première chose que l'enfant reçoit, c'est la vertu de charité. Et c'est parce que cette vertu de charité éclate dans son âme que le péché de l'enfant disparaît. Le seul péché qu'a un enfant nouveau-né, c'est le péché originel. Donc le péché originel est effacé par le baptême. Donc la vie chrétienne consiste spécialement dans la charité qui unit l'âme à Dieu. Donc sans la charité, eh bien, il n'y a pas de possibilité d'amour du bon Dieu. La charité, c'est quoi ? La charité, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est quoi? L'habitation en nous de la Sainte Trinité, ben, c'est tout simplement, mes bien chers frères, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est tout simplement en nous la grâce sanctifiante. L'état de grâce, c'est l'habitation en nous de la charité, l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Celui qui est en état de grâce, eh bien, on peut vraiment dire, a déjà en lui une petite partie du paradis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc la vie chrétienne consiste spécialement dans la charité qui unit l'âme à Dieu. Alors c'est quelque chose d'un peu compliqué, on a du mal à comprendre ces choses-là, tout simplement parce qu'on est, on est tous contaminés par le libéralisme du monde moderne. En plus de ça, le naturalisme du monde moderne, le libéralisme du monde moderne va, si vous voulez, va remplir notre âme de choses naturelles, de choses matérielles, il n'y a plus de place pour le spirituel. Et donc, pour comprendre toutes ces choses magnifiques que nous explique saint Thomas, il faut commencer par vider un peu notre âme des choses matérielles pour s'accrocher au bon Dieu. Si mon âme est engluée dans les choses matérielles, comment voulez-vous qu'elle s'élève vers le bon Dieu? Elle ne peut pas. Elle est comme un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a un filet à la patte. Il faut commencer par ouvrir la porte et mettre dehors des choses matérielles pour remettre le bon Dieu un peu dans cette âme. C'est ce qu'on fait par une bonne confession générale. Alors, la question 184, saint Thomas d'Aquin va se poser la question de savoir si on peut être parfait en cette vie. Une question, un article très important. Donc, question 184 de la Seconda Secundae, article 2. Voilà ce que dit saint Thomas. Donc, il cite saint Matthieu. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Donc, la perfection de la vie chrétienne, on l'a déjà dit, réside dans la charité. Donc, on peut envisager ainsi, dit saint Thomas, une triple perfection de la charité. Une perfection absolue. La charité alors est totale, non seulement par rapport à celui qui aime, mais encore par rapport à celui qui est aimé. C'est-à-dire que Dieu est aimé autant qu'il est aimable. Et cette perfection de la charité n'est possible à aucune créature, et le privilège de Dieu qui possède le bien intégralement et par essence. Donc Dieu seul peut s'aimer parfaitement. Nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas avoir en nous le degré de charité que Dieu a en lui-même. Dieu est charité. Deus caritas est. Donc, une deuxième perfection de la charité, nous dit saint Thomas, donc après cette charité absolue, totale, qui ne peut exister qu'en Dieu, eh bien, ce deuxième degré de charité, en quelque sorte, dit saint Thomas, c'est une perfection qui répond à toute la capacité de celui qui aime, donc qui est limité, dont l'amour se porte vers Dieu selon tout son pouvoir et de façon actuelle. Alors, expliquons un petit peu. Cette perfection n'est pas possible dans l'état de pèlerin, mais elle existera dans la patrie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ici-bas aimer Dieu au maximum de notre puissance de notre âme, mais on pourra le faire au ciel. Donc, il y a Dieu d'une part, qui a la charité absolue, qui est charité lui-même, charité incarnée, et ensuite la charité des élus au ciel, qui n'est pas parfaite, mais qui est la charité la plus haute qui puisse exister dans une créature. Et enfin, troisième degré de charité, dit saint Thomas d'Aquin, la charité qui n'est totale ni par rapport à l'être aimé, ni même par rapport à celui qui aime, en ce que celui qui aime Dieu le ferait de façon toujours actuelle, mais qu'il est en cet autre sens qu'elle exclut tout ce qui contrarie le mouvement de l'amour divin. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir la charité incarnée comme Dieu lui-même la possède, on ne peut pas avoir la charité des élus au ciel ici-bas, c'est pas possible. Mais on peut déjà ici-bas avoir un degré de charité maximal qui correspond au degré d'état de grâce que nous avons en nous. Cette perfection-là, dit saint Thomas, est possible dans la vie présente. Pourquoi ? Parce que c'est possible dans la vie présente de quelle façon ? Eh bien, saint Thomas va expliquer que c'est possible dans la vie présente parce que cette charité implique le rejet de par la volonté humaine de tout ce qui est contraire à la charité. Donc, rejet du péché mortel. Celui qui a éliminé de façon habituelle le péché mortel est dans ce qu'on appelle la vie unitive. La vie mystique, elle est possible ici-bas. pas simplement pour les élus du ciel. Donc, sans cette perfection-là, la charité ne peut exister. Aussi est-elle nécessaire au salut. La charité est nécessaire au salut. Dans le sens que quelqu'un qui n'a pas la vertu de charité, au moins à son degré minimal, ne peut pas aller au ciel. Quelle condition pour aller au ciel? Être en état de grâce le jour de sa mort. Et pour être en état de grâce le jour de la mort, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut être en vertu de charité. S'il y a la vertu de charité en moi, charité surnaturelle, la vertu théologale de charité qui fait que j'aime Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu, à ce moment-là, je peux être sauvé. Donc toute personne qui vit, qui meurt en état de grâce est sûre de son salut. Toute personne qui meurt en état de péché mortel sans la charité, sans l'état de grâce, sans l'habitation en elle de la Sainte Trinité, ne peut pas aller au ciel. C'est malheureusement l'enfer. Donc, en tant qu'elle implique le rejet par la volonté humaine, non plus seulement de ce qui est contraire à la charité, mais encore de ce qui l'empêche de se porter vers Dieu de tout son élan. Donc, la charité peut exister sans cette perfection, comme c'est le cas chez les commençants et les progressants. C'est-à-dire que Dieu ne demande pas à un débutant, ou même à un progressant, d'avoir le degré de charité d'être Sainte Vierge Marie ici-bas sur la terre. Il faut du bon sens. De même que la condition de la vie présente ne permet pas à l'homme d'être toujours uni à l'amour d'amour actuel, elle ne lui permet pas d'avoir pour chacun de ses frères individuellement un amour actuel et distinct. Il suffit qu'il les aime tous ensemble, universellement, et chacun en particulier d'un amour habituel sous forme de disposition de cœur. Il faut avoir une disposition d'aimer tous les hommes. Non pas le péché des hommes, mais ce qu'il y a de Dieu en eux. Qu'est-ce qu'il y a de Dieu dans les hommes? Les âmes. L'âme et... Et là, l'image est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, une âme en état de grâce, est en plus non seulement à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance du bon Dieu. Vous voyez, ces choses sont extrêmement, extrêmement importantes. En finissant avec, on va essayer de voir si je peux finir cette question 183. Donc la perfection, article 3, la perfection de cette vie consiste-t-elle principalement dans les préceptes, dans les conseils? Préceptes, c'est les 10 commandements. Conseils évangéliques, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. Voilà ce que dit saint Thomas. La perfection de la charité, qui fait la perfection de la vie chrétienne, tient à ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur et le prochain comme nous-mêmes. Il s'en peut donc que la perfection consiste en l'observation des préceptes, des 10 commandements. Directement et essentiellement, la perfection de la vie chrétienne consiste donc dans la charité, l'amour du bon Dieu, l'état de grâce, pareil, principalement dans l'amour de Dieu, et secondairement dans l'amour du prochain, amour auquel se rapportent les préceptes principaux de la vie de la loi divine. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, c'est la charité, et ton prochain, comme toi-même, pour l'amour du bon Dieu. Donc l'amour du prochain, pour Dieu. On ne peut pas aimer dans le prochain le péché. Vous avez un fils qui vit dans le concubinage. Est-ce que vous devez aimer votre fils? Bien sûr. Il est toujours votre fils. Vous devez l'aimer d'un amour tendre. Si vous devez aimer le péché en lui, et non, vous devez accepter le fait qu'il vive en concubinage avec une femme. Bien sûr que non. Ah, mais à ce moment, je vais être obligé d'être dur avec lui. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a été dur avec le pécheur dans le sens qu'il a dû mourir pour eux. Il y a une certaine dureté dans le sens que le péché exige le sacrifice absolu de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ exige la conversion. Il a exigé la conversion de Sainte Marie-Madeleine. Il ne lui impose pas, mais il l'exige, dans un sens que Sainte Marie-Madeleine a parfaitement compris que la volonté du bon Dieu était qu'elle se convertisse, qu'il fallait qu'elle se convertisse complètement pour posséder Dieu complètement. Cependant, si directement, essentiellement, la perfection de la vie chrétienne consiste dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour de Dieu manifesté par les préceptes de la loi divine, c'est-à-dire les 10 commandements, cependant, secondairement, et à titre de moyen, la perfection consiste dans les conseils évangéliques. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Belle citation aussi dans saint Thomas. Les jeûnes, l'éveil, la méditation des Écritures, la nudité, le dénuement de toute ressource ne sont pas la perfection même, mais des moyens de perfection. Ce n'est pas en eux que réside la fin de ce régime de vie, mais c'est par eux qu'on parvient à cette fin. Auparavant, il avait dit, nous nous efforçons de nous élever par ces degrés à la perfection de la charité. Vous voyez. Donc, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui va entrer au ciel, mais celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Voyons l'article 4 de cette question 184, je ne vais pas avoir le temps de finir toute la question, mais on va avancer encore un petit peu, il reste quelques secondes là. Je ne vais pas trop dépasser l'heure parce qu'après les gens décrochent si je fais des cours trop longs. Article 4 de la question 184. Donc secunda secundae, question 184, article 4. Quiconque est parfait se trouve-t-il dans l'état de perfection? Alors, saint Thomas va distinguer encore les choses. Certains sont dans l'état de perfection, non, ni la charité, ni la grâce. Par exemple, les mauvais évêques, les mauvais religieux. Il semble donc, à l'inverse, certains puissent avoir une vie parfaite sans se trouver dans l'état de perfection. L'état de perfection, par exemple, c'est l'état de l'évêque. L'évêque est, doit être, dans l'état de perfection. Malheureusement, il y a des mauvais évêques qui ne sont pas en état de perfection, qui ne sont pas dans la charité. Donc on dira de même qu'un homme se trouve dans l'état de perfection non pas en raison de l'acte intérieur de charité qui est parfait en lui, mais parce qu'il s'est obligé pour toujours et par un acte solennel à une vie de perfection. Rien n'empêche donc que certains soient parfaits sans être dans l'état de perfection et que d'autres soient dans l'état de perfection sans être parfaits. Et ça nous laisse de la marge, hein. Donc même si je suis pas évêque, même si je suis simple religieux, même si je suis simple prêtre, même si je suis simple fidèle, eh bien le bon Dieu peut m'amener à un état de perfection. Lorsqu'on passe, par exemple, du péché à la grâce, on passe effectivement de la servitude à la liberté. Et comme mes bien chers frères, comme toutes ces choses sont très très importantes. Et une fois qu'on a compris ça, je vous assure qu'on a compris beaucoup de choses. Alors, vous voyez, ces parties de saint Thomas sont extrêmement, extrêmement importantes. On a tendance parfois à considérer ces parties comme peut-être trop surnaturelles. Mais il ne faut pas oublier que Dieu, encore une fois, sait exactement ce qu'il fait. Et il nous demande, dans bien des cas, il va nous demander d'avoir en nous cette charité. Il nous demande toujours d'avoir en nous la charité. Et le bon Dieu qui veut en nous la perfection est parfaitement capable justement de nous donner les grâces dont nous avons besoin pour que nous puissions vivre dans la vertu de charité. Alors, encore une fois, ces parties, si ça sont mal comprises, c'est parti de la secunda secundae, donc question 180, autour des questions 180, 185, ces parties peuvent nous pousser un petit peu au découragement, faire attention à ça. Vous voyez, mais relisez, je vous demande de relire, si vous pouvez, le polycopié qui est attaché. Alors attention, donc j'ai rajouté dans le polycopié ce qui manquait, c'est-à-dire les trois choses qui avaient sauté, je ne sais pas pourquoi, donc j'étais passé malheureusement sur les trois derniers traités de la secunda secundae, à savoir le traité de la force, traité de la tempérance et traité des états de vie. Et donc maintenant, le polycopié est complet. J'ai rajouté ce qui manquait. Du coup, ça va faire un changement de page, évidemment, dans les polycopiés. Dans le polycopié qui est sur le site internet, parce que j'ai remis les trois parties des traités, donc le résumé des traités, à leur place normale. Du coup, ça a changé la pagination. Alors, je m'excuse pour ça. Donc, si vous êtes... Donc sur le polycopié maintenant, vous allez avoir un résumé de tout ce que je viens d'expliquer à la page 125, 126, 127 surtout. 127, 127, vous avez la question 184, article 2, vous voyez. Donc 127, 128, donc je m'excuse pour ceux qui avaient déjà imprimé leur polycopié. Voilà, vous allez être obligé d'un seul coup de réimprimer ou de rajouter ce qui manque comme vous voulez. Alors je m'excuse pour le dérangement pour ceux qui sont obligés de réimprimer certaines choses, mais j'ai voulu que le polycopié soit complet. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nous, Saint Georges gardien, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.